Dans le psaume 92, au verset 13, il est parlé d'une catégorie de chrétiens. Dans quelle catégorie sommes-nous ? Psaume 92, verset 13. Après, on lira dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, la deuxième lecture. Psaume 92, verset 13. Heureux celui qui peut s'identifier au verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Vous avez vu pourquoi ? Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Gardez la page, bien sûr, nous y reviendrons tout à l'heure. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, Jésus va donner cette fameuse parabole du semeur et des terrains. On va lire la parabole en soi. Moi, j'ai toujours prêché sur l'explication de la parabole. Mais là, on va lire la parabole en soi. Marc, chapitre 4, verset 1er. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Regardez bien comment ça commence. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque. Sur la mer, toute la foule était sur le rivage. Vous pouvez remarquer que Jésus est assis et que la foule est debout. Il va falloir qu'on y arrive à ça. Non ? Vous croyez pas ? Non. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Regardez bien comment ça finit. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Verset 16. Les autres, pareillement, ne reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Verset 34. Il ne leur parlait point sans parabole. Mais, regardez bien cette explication, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen, vous pouvez vous asseoir. Donc on voit bien qu'il y a deux catégories de croyants. Il y a ceux qui écoutent et il y a ceux qui veulent se retrouver seuls avec Dieu pour avoir des explications. Vous le voyez souvent dans la parole, Jésus prêchait, il y avait une grande foule et puis après, les disciples, quelques apôtres, des fois un, deux, trois, voulait savoir à quoi correspondait ce que Jésus a dit. Alors, on m'a souvent posé la question, la parabole du semeur et des terrains, est-ce qu'elle est adressée aux chrétiens ou est-ce qu'elle est adressée aux perdus ? En vérité, ce n'est pas une parabole qui est adressée aux chrétiens ou aux perdus. Elle est adressée aux deux. C'est une parabole qui nous parle de la disposition du cœur. Donc, si vous êtes chrétien, cette parabole, elle est pour vous. Mais si vous n'êtes pas chrétien, cette parabole vous permet aussi de savoir quelle est la disposition de votre cœur. Quand Dieu parle, quand vous lisez la parole de Dieu, une de ces quatre réactions obligatoirement se retrouve. Obligatoirement. Que vous soyez chrétien ou pas encore, c'est obligé, votre cœur ressemble à un de ces quatre terrains. Alors la question qui, bien sûr, est que les disciples disent, mais comment ça se passe ? Comment un homme peut-il porter du fruit ? Comment un homme peut-il avancer avec Dieu ? Ça vous intéresse d'avancer avec Dieu ? De subsister ou de voir combien de gens s'arrêtent en chemin. Combien il y a de rétrogrades en France? Combien de gens ont commencé et se sont arrêtés en chemin, d'après vous? Ça fait peur, Ça fait peur, c'est même pas la peine d'en parler. En tous les cas, cette parole, cette parabole, nous enseigne quelle sorte de cœur il faut avoir pour porter du fruit et ressembler à ces fameux palmiers dont Jésus parle dans le psaume 92, ou aux cèdres. On aurait pu, il parle des cèdres et des palmiers. Le palmier, il est toujours dans le désert, tandis que le cèdre, il peut être à la fois en pleine chaleur et à la fois subir vraiment le froid de l'hiver. On va pas parler des deux ce matin. Donc, il y a des chrétiens qui s'intéressent à la bénédiction. Oui ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous vous intéressez à la bénédiction ? Bon. Et il y a des chrétiens qui s'intéressent à la spiritualité. Alors, à quoi vous intéressez-vous ? Bien sûr, mais il y a des chrétiens qui ne s'intéressent qu'à la bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi ? Et là, ça fait peur. Il y a peut-être des gens ce matin, moi je n'ai pas à vous juger, je ne peux pas, là, dire, je ne suis pas habilité, je ne sais pas. Mais vous êtes peut-être là que pour la bénédiction. Ça se comprend, Jésus en parle. Mais il y a ceux qui sont là, pour les deux, à savoir, de toute façon ils savent que notre Père Céleste est un Père qui bénit, mais ça ne suffit pas, il y a des gens qui disent, moi je veux grandir dans une véritable spiritualité et être fidèle jusqu'au bout. Ça vous intéresse d'être fidèle jusqu'au bout ? Vous savez, moi, dans ma famille, je ne sais pas dans la vôtre, il n'y en a pas qui ont pris le baptême et qui se sont détournés. Ouais, ça fait. Je vous dis, combien de gens ont chuté en route ? Combien de gens ont arrêté en route ? N'oubliez jamais que Dieu ne nous forcera pas. Jamais Dieu n'a forcé quelqu'un. Même les anges, qui ont voulu se désolidariser de Dieu, l'ont fait. Ils sont devenus les fameux démons. Même ces anges qui étaient puissants, qui voyaient en fait plein de choses, ils ont choisi toutes les créatures créées, comme les anges, ou nous, procréées, toutes les créatures qui auront vécu dans les cieux et sur la terre, toutes, il n'y en a pas une qui n'aura pas eu la liberté de choisir. Je vous dis, même les anges ont eu cette liberté. Donc on est libre, Dieu ne nous force pas, il n'y a que dans une secte ou un gourou, c'est vrai ce que je dis, un gourou peut nous forcer à faire telle ou telle chose, à pratiquer telle ou telle chose, à vous obliger à faire aussi, voilà, ça c'est dans une secte. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Ce qu'on fait, il faut le faire de bon cœur. Même si c'est la consécration, ça doit être une grâce. La consécration, c'est une faveur. Et voilà. Vous voyez, mais il y a des gens pour qui la consécration, ouais, il faut se consacrer. Eh bien, quand on interprète les choses de cette manière, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème, un problème de compréhension, un problème d'explication. On a besoin d'explication. Les apôtres, à part, ou les disciples, écoute, explique-nous. Et c'est un petit peu ce que l'on peut vivre. On est dans l'église, on écoute une prédication, mais vous avez peut-être davantage de soi. Seigneur, je veux que tu me parles. Parce qu'il y a la prédication où Dieu parle, mais il y a aussi une révélation personnelle. On appelle ça les moyens de grâce. Un cantique, c'est un moyen de grâce. C'est-à-dire que, est-ce que par un cantique, Dieu peut vous parler ? Oui, Dieu peut parler par un cantique. Est-ce que par un témoignage, Dieu peut vous parler ? Oui. Est-ce que par une prophétie, Dieu peut vous parler ? Etc. On appelle ça des moyens de grâce. Par une prière, est-ce que Dieu peut vous parler ? Oui. Les théologiens appellent ça moyen de grâce. Par la prédication, Dieu peut vous parler. Mais n'oubliez pas qu'il y a une dimension extraordinaire, qui est quelque chose de personnel entre vous et Dieu. Vous ne l'apprendrez que du Seigneur. J'en ai déjà parlé. Beaucoup de chrétiens sont fragiles parce qu'ils ne reçoivent que du pasteur. Et souvent, ils se plaignent. Oui, ils pourraient nous enseigner mieux. Ils pourraient nous enseigner plus en profondeur. C'est ce qui est certain. Mais rappelez-vous quand Pierre s'est trouvé devant Jésus et qu'il a fait un sondage. Rappelez que Jésus a fait un sondage. C'est la période. On m'a fait des sondages. Qui dit-on que je suis ? Alors, oui, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es le prophète, etc. Voilà, ils disaient ce que les gens disaient. Et puis il dit, et vous ? Qui dites-vous que je suis ? Parce que c'est bien, c'est facile de dire, oui, le Seigneur, il est ceci, le Seigneur, il est cela, mais pour vous, pour toi, qui est-il le Seigneur ? Et Pierre, nous le connaissons, Pierre s'avance et dit, écoute Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, mais ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc vous avez la preuve que malgré son caractère qui avait encore besoin d'être modifié, Pierre avait une communion personnelle avec le Seigneur. Et si cet homme est devenu l'apôtre, parce qu'il avait en plus une communion personnelle avec Dieu, il n'a pas appris ça d'un prédicateur, ou d'un scribe, d'un pharisien, il a appris ça de Dieu lui-même, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et je vous encourage à avoir des moments de communion, parce que c'est bien de chanter c'est auprès de Dieu, mais c'est quand même autre chose de le vivre. Donc pourquoi y a-t-il tant de gens qui chutent quand il y a des baptêmes? On se réjouit quand il y a des baptêmes. C'est comme quand il y a un mariage. Vous savez, il y a une personne qui me disait dernièrement, elle était très 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 positive. Quand je vois un mariage, elle me disait, vous savez, je me fais beaucoup de soucis. Elle l'a exprimé, ce que beaucoup pensent. C'est qu'on se demande quand on voit un mariage, s'il va aller jusqu'au bout. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'était pas positive, mais c'est quand même la vérité. Et quand on voit des baptêmes, c'est un peu pareil. On voit 10 baptêmes, on se dit, oh, merci Seigneur. Mais sur les 10, combien vont aller jusqu'au bout? Moi, quand on a pris le baptême, on était 5. Et on n'est que 2. Oui, 2, ma femme et moi. Être restés fidèles au Seigneur. Donc, la question qu'il faut se poser, et j'aimerais tout à l'heure qu'on puisse se lever devant Dieu, ceux qui le veulent, bien sûr, et dire, il faut que je sache d'abord dans quelle disposition de cœur je suis. Dans quelle disposition je suis, au fait. Voilà. La volonté de Dieu, c'est sérieux. Oui ou non? Est-ce que pour vous, c'est sérieux la volonté de Dieu? Ou est-ce que c'est juste aller le dimanche à l'église? Parce qu'il y en a des choses qui... Quand la volonté de Dieu est conforme à la nôtre, tac, est-ce que c'est bien? Oui. Seigneur, je t'ai demandé ça. Seigneur, je voulais aller travailler à Toulouse. Paf! Je trouve du travail à Toulouse. Est-ce que c'est bien? Oui. Seigneur, je voulais travailler à Toulouse. Paf! Je trouve du travail à Marseille Nord. Vous êtes d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Je donne un exemple. Est-ce que ça peut arriver? Eh oui! Eh oui, ça peut arriver. Et on pourrait multiplier les exemples, je ne vais pas prendre le temps. Donc, les circonstances peuvent changer, la montagne peut se dresser, en fait, le chemin il peut monter, etc. On peut prendre plein d'images pour expliquer que les choses ne vont pas se passer comme on le voudrait. C'est pour ça que j'ai pris ce cantique, « Mon Dieu, plus près de toi, dans les épreuves, dans le désert, dans la souffrance. » Une vie qui glorifie Dieu, c'est le top niveau. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que mardi soir, je vais faire une étude sur la probation de Dieu. Quand quelqu'un a l'approbation de Dieu, c'est vrai que la plus grande chose, c'est d'avoir la paix et le pardon. Si vous avez la paix et le pardon, vous êtes heureux. Mais si en plus, votre comportement fait que vous avez l'approbation divine, là, c'est le top niveau. Et je pense que ça serait bien de prendre quelques versets pour montrer ce qu'est l'approbation divine. Peut-être qu'on le fera mardi ou dimanche. Mais priez pour moi, parce que pour moi, c'est spirituel. C'est pas une question d'une belle étude. C'est quelque chose pour éclairer les chrétiens, pour savoir si... Dans leur comportement, ils ont cette approbation divine. Une vie qui glorifie le Seigneur, c'est une vie qui plaît à Dieu. C'est quelqu'un qui porte sa croix tout le long de sa vie et qui accepte tout ce que Dieu lui demande. Il y a des gens qui sont incapables de servir le Seigneur jusqu'au bout. Alors on revient à notre évangile de Marc, Jésus dont parle. Vous savez, cette grande foule était là, ils n'ont pas tout compris, je peux vous le dire. D'ailleurs, ça nécessitait une explication, c'est la preuve qu'une parabole, ça ne suffit pas. Une prédication, ça ne suffit pas. Et même 50 000 prédications, ça ne suffit pas. Donc Jésus leur parle, Marc chapitre 4, verset 5. Il parle, bon, le premier terrain, et pourtant on pourrait en parler. Combien de chrétiens écoutent la parole de Dieu? Ils ne sont pas dans la rue Saint-Guilhem, dans l'avenue de l'URSS, que déjà ils ont oublié. Ça, ce n'est pas bon signe. Là, on va partir du verset 5. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Mais quand même, qu'est-ce qu'il dit? Elle leva aussitôt. Pourquoi elle lève? De suite en plus. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Donc, elle lève aussitôt. Donc, c'est la preuve, si une graine lève, c'est-à-dire qu'elle est morte à l'intérieur, le germe sort et hop, il y a la vie. D'accord? Si une graine lève et sort, c'est imparable, c'est qu'il y a la vie. Donc, il s'est passé quelque chose. Beaucoup de gens ont expérimenté cette grâce du départ. C'est-à-dire, il y a eu la croix, la prédication de la croix, il y a eu cette conviction de péché, et on a commencé à s'enterrer avec le Seigneur, à rentrer dans les choses de Dieu. Si elle lève aussitôt, c'est clair, il y a la vie. Donc il y a l'espérance, c'est merveilleux au début d'avoir de l'espérance, non? C'est magnifique quand vous découvrez l'évangile et que tout d'un coup vous avez l'espérance de la vie éternelle. Vous l'avez l'espérance de la vie éternelle? Vous l'avez toujours? Vous croyez que c'est vrai cette histoire? Vous êtes sûr que c'est vrai? Allez, fermez les portes, on va parler entre nous. Il y a un gars un jour qui est venu, il avait été guéri d'une dépression, guéri physiquement, dans tous les domaines. Et puis il est arrivé à 9h moins le quart, il dit, je peux vous parler? Mais vous savez, il était tout effrayé. Il n'y avait personne. J'avais ouvert l'église, c'était 8h30. Je peux vous parler? Il me dit, allez monsieur Go, dites-moi la vérité. Allez, dites-moi vraiment la vérité. C'est vrai que j'ai été guéri, mais ça doit être psychique, psychologique. Mais vous y croyez vraiment à l'enlèvement? Vous y croyez vraiment à la vie éternelle? Vous y croyez vraiment au paradis? Je dis, mais je vous plains vraiment, ça m'a fait pitié vraiment. Et le gars, il croyait que je prêchais ça pour... parce que c'était mon boulot. J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Et j'ai dit, mais vous devrez le croire parce que ça va mal se passer si vous ne le croyez pas. Et il est revenu 5 ou 6 ans après, il était converti. Il m'a dit, monsieur Gau, j'étais un aveugle. Pourtant, il avait été guéri un dimanche en imposition des mains. Il avait été vraiment bouleversé, cet homme. Vous voyez comment on peut être guéri et ne pas avoir d'espérance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de début de repentance. Il y a beaucoup de gens, ils prennent le baptême. Ils voulaient prendre le baptême. J'ai dit, non, je ne vous baptiserai pas tant que vous ne serez pas converti. Mais si, je veux prendre le baptême, je suis ma guéri. J'ai dit, non. J'ai presque failli me disputer avec lui parce qu'il voulait absolument prendre le baptême pour remercier Dieu. On ne prend pas le baptême pour remercier Dieu. On prend le baptême parce qu'on veut s'engager avec lui. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas tenu. Donc, elle lève, il y a un début de vie, il y a quelque chose de spirituel qui a commencé. C'est formidable. La personne reçoit la parole, etc., etc. Mais, qu'est-ce qu'il est dit au verset 6? Qu'est-ce qu'il est dit? Ça, ce n'est pas le verset qui nous plaît le plus. Là aussi, ce verset, je ne l'ai jamais vu sur un poster. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Voilà, on a bien commencé, mais dès qu'il y a le premier rayon de soleil, paf, les choses disparaissent. Il y a un texte que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Osée. Osée chapitre 6, verset 4. « Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas ?» On voit bien que... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais Dieu ne sait pas... C'est une façon de parler, attention. Ça veut dire que Dieu ne sait plus quoi faire. Vous avez, attention, hein. Attention, c'est une image. Que te ferai-je? J'avais dit, mais quel moyen je vais devoir utiliser pour que tu aies une véritable piété? Il dit, votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Vous avez pris l'autoroute le matin, l'été? Des fois, vous vous levez à 5h, vous voulez partir loin, il y a un brouillard pas possible. Vous dites, mais c'est pas possible, il va y avoir du brouillard toute la journée. Dès que le soleil se lève, le brouillard, pouf, il disparaît. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de dire aux chrétiens. Il dit, vous voyez, votre piété, elle est comme le brouillard du matin sur l'autoroute à Toulouse. Dès qu'un rayon de soleil commence à darder, c'est fini. Il n'y a plus de piété. Alors, on pourra lire la suite tout à l'heure, mais c'est au chapitre 9. Oui, au chapitre 9, au verset 16, là on avance pour tout à l'heure. Il dit, mais Ephraïm est frappé. Sa racine est devenue sèche, ils ne porteront pas de fruits. Vous voyez, il y a eu la semence à lever, c'est bien, l'espérance a jailli, je prends le baptême, il y a quelque chose, on voit dans la vie de ce frère, de cette sœur, vraiment quelque chose a commencé. Moi je vais servir le Seigneur toute ma vie, je veux être un serviteur de Dieu. Mais combien de gens m'ont dit, moi je voudrais être pasteur, je voudrais être servante du Seigneur. Toute ma vie, je servirai, me faudrait-il mourir? Eh bien, je servirai Dieu. Et je peux vous dire que 3 mois après, on n'était plus dans le même vocabulaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 16 de Marc 4, il est même, parce qu'il y a un piège. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 16? Vous avez toujours votre Bible ouverte? Marc chapitre 4, verset 16. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord. Comment ils la reçoivent? Avec joie. Moi, au début, quand j'étais pasteur, jeune pasteur, je pensais que quand quelqu'un recevait la parole de Dieu avec joie, pour moi, c'était gagné. Quelqu'un me dit, oh, monsieur Gau, j'ai lu ce psaume. Si vous savez la joie que j'ai. Et moi, je me suis dit, ces chrétiens, ils sont partis comme il faut. Mais non. Ce n'est pas parce qu'on reçoit la parole de Dieu avec joie, il faut se vérifier s'il y a des racines. Parce que il y a la parole, il y a le psaume 23, il y a les enseignements merveilleux de Jésus-Christ sur le pardon au bord de la mer de Galilée. Oui, parce que Jésus a enseigné le pardon sur les bords de la mer de Galilée. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que d'un côté, il y a la parole, mais de l'autre, il y a toujours l'épreuve, l'affliction, la contrariété. Vous avez vu le verset 17 ? Regardez bien le verset 17. Ils la reçoivent avec joie, mais il n'y a pas de racine. Ils croient, moi c'est un verset qui me brise le cœur, ça, cette parole. Ils croient pour un dame. J'avais prié une fois, j'étais ici il y a 15 ans. J'étais dans mon bureau, j'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait qu'il y a tant de gens qui rétrogradent? Je vous assure, j'étais... Vous savez, quand on est triste de voir des gens qui prennent le baptême, qui font des expériences, qui ont été guéris, qui ont été délivrés, etc., etc., et paf, ils prennent le baptême, et trois mois après, une contrariété au boulot. Et j'avais dit, mais Seigneur, pourquoi? Et je lis, ils croient pour un temps. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça m'a déchiré le cœur. Parce que je sais que c'est vrai. Ils croient pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, alors regardez bien les simples mots qui suivent. Regardez bien, parce que c'est une clé ça. Dès que survient une tribulation ou une persécution, une épreuve, à cause de quoi? De la parole. Quand un chrétien reçoit la parole, il reçoit quelque chose, il l'a entendu, vous le recevez ou pas, mais enfin, quand vous écoutez une prédication, si je vous fais une prédication sur la patience, par exemple. Je vous fais une prédication, je vous parle dans les livres de l'Ancien Testament, dans les livres du Nouveau Testament, je vous fais une étude sur la patience, et au bout de trois quarts d'heure, vous allez dire, oui, ce qu'ils disent, je suis d'accord. J'approuve, je signe. C'est la vérité. C'est une étude sur la patience. J'avais besoin d'entendre ce sujet, j'ai besoin d'apprendre la patience. Mais ce n'est pas parce que j'approuve, ce n'est pas parce que je suis d'accord, que j'ai appris la patience. Vous comprenez? Dieu va nous faire un enseignement sur la patience, mais il ne va pas nous donner qu'un enseignement sur la patience, il va nous envoyer le lendemain, ou le soir même, ou dans la semaine, ou dans 15 jours, il va nous envoyer une situation, écoutez bien, parce que c'est là que se situe le problème, il va nous envoyer une situation pour savoir si nous avons bien appris la leçon. Vous me suivez? C'est ça. Il y a une persécution à cause de la parole. J'entends une prédication sur l'amour. Il faut aimer son prochain. Est-ce que vous aimez l'autre prochain, celui qui est à côté de vous? Claudine, est-ce que vous aimez Marilyn? Marilyn, est-ce que vous aimez le garçon qui est à côté de vous? Oui, il vaut mieux, etc. C'est facile, on fait une prédication sur l'amour, etc., etc. Est-ce que c'est bien une prédication sur l'amour? Il faut s'aimer les uns les autres et tu aimeras ton prochain, tu aimeras tes ennemis. Oh, c'est pas facile. Mais bon, allez dans la foulée et l'élan de la grâce et la paix qu'il y a. Mais oui, mais ouais. Merci Seigneur, aimons-nous les uns. Levez-vous, levez les mains. Comme et puis le lendemain, on va au travail. Ou même à l'église. Est-ce que ça peut se présenter à l'église qui est une difficulté relationnelle? Et il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, Dieu veut notre perfectionnement. Dieu veut notre croissance, peut-être plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Parce que pour Dieu, c'est important. J'ai parlé tout à l'heure de la joie et du pardon, de la paix et du pardon. Mais laissez-moi vous dire que s'il y a une chose que Dieu veut, c'est que nous servions à célébrer sa gloire. Vous avez vu ce qu'on a lu dans le psaume 92, pourquoi nous devons ressembler à des palmiers. Donc, un chrétien, il reçoit la parole, il est d'accord, il est certain qu'il a peut-être compris. Mais moi, c'est, Seigneur, je serai patient. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que Dieu, il va vraiment provoquer une épreuve. Peut-être même au sein du couple. Est-ce que ça peut arriver? Marie, aimez vos femmes. Je dis, mais moi, j'aime ma femme. Il n'y a aucun doute. Est-ce que Dieu peut permettre une épreuve au sein du couple? S'il y en a qui sont mariés, si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main et dites, non, monsieur Gauche, il n'y a jamais d'épreuve dans le couple. Il y a des gens qui sont mariés? Est-ce que vous avez déjà eu des épreuves dans le couple? Aline? Oui. Sébastien? Non. Sébastien, je connais un psychologue qui est bien. Et on a tous des épreuves. Mais le problème, c'est que là, on le dit d'une manière joyeuse et paisible. Et c'est bien, parce que quand même, c'est une grâce d'être dans la maison du Seigneur. Mais mes frères et sœurs, quand Dieu nous aborde sur un sujet, ou n'importe quel sujet, j'ai parlé de la patience, j'ai parlé de l'amour, mais n'importe quel sujet, à partir du moment où, bien sûr, si le sujet n'est pas à propos, si moi je vous prêche sur quelque chose qui ne correspond à rien, etc., c'est pas évident. Si je n'ai pas la pensée de Dieu, ça va pas aller. Et personne ne va grandir. Mais si dans une vie personnelle, dans une vie d'église, il y a vraiment la pensée du Seigneur, Dieu va provoquer une épreuve à cause de la parole. Parce que je le répète, il faut le répéter, le but de Dieu, c'est que nous fassions des progrès, pas que nous soyons que bénis. Il va la provoquer, pour tout. Est-ce que vous êtes prêts à ce que Dieu provoque une situation par rapport à la prédication de ce matin ? Bon, mais on va prendre la Sainte-Seine, je ne sais pas. Est-ce que il faut que c'est bien que je sais qu'il me faut aimer ma femme. Est-ce que soyons honnêtes, est-ce que c'est toujours facile d'aimer son conjoint? Je vous embarrasse avec mes questions, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est toujours facile d'aimer son conjoint? Répondez-moi les maris, allez, commençons par les maris, soyez gentils. Soyons honnêtes, c'est pas toujours facile d'aimer. Oui ou non? Ceux qui sont pas mariés, je vois qu'ils font de son tri, non, vous inquiétez pas. Mais est-ce que c'est toujours, sérieusement, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile d'aimer son mari? Vous le savez, c'est pas facile d'aimer. Et Dieu veut que nous aimions. Parce qu'on est heureux quand on aime. Donc, il va provoquer une situation. Entendre, acquiescer, approuver, ça ne suffit pas. Ce qui est vraiment authentique, ce qui est vraiment vrai, ce n'est pas ce que je crois vraiment, c'est que je le vis. J'entends une prédication sur la patience, eh bien Seigneur, tu vas m'apprendre la patience. Et je peux vous dire qu'il va provoquer une situation. C'est pas moi qui vais le faire, c'est Dieu qui va le faire. Et ça peut aller très vite. Moi je me souviens, vous savez quand j'étais pasteur à Tahiti, ça faisait 12 ans que j'étais pasteur. J'avais été pasteur 6 ans à Albi, j'avais été pasteur 6 ans à Groyer. Et par la grâce de Dieu, les deux assemblées s'étaient développées, surtout la deuxième, où j'étais seul avec Isabelle, tout ça. Et quand je suis arrivé à Tahiti, on me confie la plus grande assemblée. La plus grande assemblée, on me confie toutes les finances, tout ça. J'avais que 36 ans, moi j'étais content, enfin content. Pas content, mais je réalisais que c'était une grâce. Et j'écoute une vidéo d'un pasteur qui parlait sur le brisement. Et le pasteur, il disait, si vous voulez être utile, Dieu vous brisera. Vous serez désespéré. Désespéré, j'étais là, moi j'ai dit n'importe quoi. Mais n'importe quoi, ce pasteur. Découragé, je veux bien. Mais désespéré, c'est pas possible. Et il insistait. À la fin, je dis, mais c'est pas possible, ce pasteur. Il raconte n'importe quoi. Et puis le soir, j'étais à mon bureau, je me rappelle, je me suis mis à genoux. Et j'écoute, Seigneur. J'étais fou ce jour-là. Seigneur, écoute-moi, brise-moi. Brise-moi, Seigneur, si j'en ai besoin. Bien sûr, je pensais que j'en avais pas besoin. J'étais sûr que j'en avais pas besoin. Non, mais j'ai fait ça, mais c'était vrai, j'étais archi vrai avec Dieu. Mais j'étais là, Seigneur, brise-moi, Seigneur, si c'est ta volonté, que je fasse des progrès. Pour moi, j'avais plus de progrès à faire, vous comprenez bien, à 36 ans, on est parfait. Le lendemain, j'étais à l'hôpital avec des calculs rénaux, j'ai cru que j'allais mourir. Et pendant 3 ans, j'ai été brisé. 3 ans, jusqu'au jour où j'ai fait une expérience avec Dieu, où là vraiment, vous savez, le Seigneur, il vous sort vraiment, vraiment, vraiment de l'épreuve. Mais ça a duré que 3 ans, vraiment. Mais mes frères et sœurs, j'avais demandé à Dieu, et je crois que Dieu, je ne serais pas là, je ne serais pas venu à Toulouse. Quand je suis arrivé à Sainte-Anne, vous ne connaissez pas la situation qu'il y avait ici il y a 18 ans, mais je peux vous dire que Dieu ne m'aurait jamais envoyé ici si on n'avait pas vécu les 3 ans. Et Dieu le savait. Et Dieu, il sait. Bon, je parle de moi, ce n'est pas grave. Mais maintenant, pour toi, mon frère, Dieu, il sait où il te veut. Dieu, il sait ce qu'il veut faire de toi. Toi, tu dis, mais moi, je suis là, assis sur ma chaise. Oui, je n'ai peut-être pas besoin d'être délivré de l'orgueil, comme l'apôtre Paul avait besoin de cette écharpe, parce que c'était hors de question qu'un homme comme ce type devienne orgueilleux. Ce n'est pas possible. Mais vous croyez que si c'est pour le salut de 2 ou 3 personnes, ça ne vaut pas la peine que Dieu vous envoie une écharde pour que vous ne vous enorgueillissez pas aussi? Franchement, est-ce que ça vaut la peine? Pour le salut de 2 ou 3 personnes, est-ce que ça vaut la peine qu'on ne s'enorgueillisse pas personnellement? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les épreuves dues à cause de la parole, parce que nous on dit, oui, je ne comprends pas, parce que nous on ne comprend pas, on dit, Seigneur, apprends-moi la patience, mais vous n'allez pas recevoir un fax du ciel. Dieu va vous envoyer quelqu'un. Le fax, c'est quelqu'un. C'est peut-être votre conjoint. C'est comme le médicament. Oui. Dieu va vous. Peut-être ça va être vos enfants. Est-ce qu'on peut apprendre la patience au travers des enfants? Là, vous répondez. Vous savez, quand on a plusieurs gosses à l'adolescence, là, vous apprenez vraiment des choses, vous voyez. Vraiment. Quand il claque la porte. Ça, vous connaissez pas, non? Les adolescents, c'est une école, les adolescents. Petits, c'est des petits problèmes. Moi, comme on me le disait avant, quand ils sont... Mais tout ça, c'est une école. Et écoutez bien, mes frères et sœurs, soyons sérieux. Dieu ne joue pas avec nos nerfs. Dieu, il vise notre spiritualité. Et ça, c'est important. Le but des épreuves à cause de la parole, ça n'a pour but que de nous apprendre à vivre véritablement la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y en a qui ne croient pas longtemps. L'expérience, il la faut. Vous êtes d'accord pour faire des expériences avec Dieu? Il les faut, ces expériences. Dieu veut que nous sachions exactement dans quelles conditions nous sommes. Vous vous êtes jamais déçu de vous-même? Est-ce que ça vous est jamais arrivé de dire... Il a fait ça, jamais je ferai un truc pareil. Et puis 3 semaines après, on peut avoir fait la même chose. Allez, dites, ça vous est jamais arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça fait mal au cœur quand même, hein? Quelle honte on a. Vous avez déjà eu honte parce que vous avez reproché quelque chose à quelqu'un et 3 semaines après, vous avez fait la même chose. Bon, la première fois où ça m'est arrivé, j'étais mort de honte. J'avais critiqué un pasteur parce qu'il avait fait un truc. Et 3 semaines après, j'ai fait exactement la même chose. J'étais mort de honte, mort de honte. J'ai dit, mais quel orgueilleux, quel orgueilleux. Et oui, il fallait que j'apprenne ça. On a besoin d'apprendre certaines choses. Parce qu'il est là, ce verset qui n'est pas sur les posters. Quand le soleil parut, verset 6. Quand le soleil parut. Si vous avez reçu la vie, c'est bien. Si vous avez accepté Jésus comme sauveur, que vous soyez passé par la repentance, que vous embrayez sur la conversion, c'est bien. La vie commence à se développer. Et si vous êtes honnête, si vous êtes vrai, le soleil va se lever. Le rayon va intervenir et vous allez commencer à grandir. Enfin, nous devrions commencer à grandir. Le soleil, ça, quel but ça a le soleil? Sur les plantes. De les faire pousser. Donc, le but du soleil, c'est de faire grandir les semences. De faire grandir les arbres, les fleurs, etc. C'est l'un ou l'autre. Écoutez bien. Le soleil n'a que 2 possibilités. Ou il vous fait grandir, ou il vous dessèche. C'est clair? C'est pas compliqué. Toutes les épreuves, je dis bien toutes, mettez-les, c'est important parce qu'il y a des gens qui ont décroché parce qu'ils n'ont pas accepté telle épreuve. Il y a des gens qui n'ont pas accepté, par exemple, une épreuve dans l'église. Il y a des gens qui sont, ils n'ont pas accepté. C'est pas possible que j'ai un conflit avec un frère, c'est pas possible, je m'en vais de l'église. Bien sûr, c'est le diable, je peux vous dire qu'il est content. Et tout ça, c'est des tests. On est continuellement testé, on est continuellement éprouvé à cause de la parole. Mais toutes les épreuves, vous en avez peut-être une en ce moment avec votre patron. Est-ce que ça peut arriver, une épreuve avec un patron qui est méchant, injuste, mauvais? Oui. Mais toutes les épreuves, si on est honnête, c'est pas une question d'être sincère avec ce que je pense, non. La sincérité, je l'ai souvent dit, c'est pas le critère de la vérité. Le critère de la vérité, c'est la parole. La sincérité, ça ne veut rien dire. Enfin, si la sincérité est en adéquation avec la parole, soyez sincère. Mais c'est une question d'honnêteté. Toutes les épreuves, écoutez bien, toutes les épreuves, vous voulez tenir jusqu'au bout? Vous voulez être debout quand Jésus va revenir? Écoutez-moi bien, acceptez toutes les épreuves. C'est écrit ou c'est pas écrit? Où c'est que c'est écrit? Considéré comme un sujet de joie complète, de joie complète. Les diverses épreuves, toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse. C'est bien, Madame Chapeau. Afin que vous soyez. Oui, terminé. Afin que vous soyez parfait et accompli pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pas étonnant que juste après il soit dit si quelqu'un manque de sagesse. Qu'il la demande à Dieu, parce que pour comprendre ça, il faut un minimum de sagesse. Il faut la demander. Toutes les épreuves, écoutez mes frères, je ne sais pas ce que vous traversez. Et je voudrais être vraiment soucieux, sérieux avec votre âme. Parce que s'il y a une chose qui nous a fait mal à tous les chrétiens qui sont persévérants, c'est de voir des gens rétrogradés. Ça nous fait mal au cœur de voir des gens qui ne se convertissent pas, franchement. Mais je ne sais pas si ce n'est pas pire. Lorsqu'on voit un chrétien qui redevient fils prodigue, je crois que c'est plus douloureux encore. Et si je vous dis ces choses, c'est parce qu'elles sont écrites, le Seigneur les a enseignées, mais ceux qui ont été au bénéfice de cet enseignement, ce sont ceux qui ne se sont pas contentés d'une prédication, mais qui ont dit, explique-nous ce que ça veut dire, cette histoire de soleil qui paraît, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'épreuve, elle vient, c'est obligé, vous ne pouvez pas avoir que l'enseignement, il faut en même temps l'épreuve. L'épreuve, écoutez bien, l'épreuve est l'expression de l'amour du Seigneur. Vous allez me dire, ben là, ça c'est facile à dire de ta chair, c'est facile. Je vous le dis, l'épreuve est l'expression de l'amour du Seigneur. Rien n'enrichit davantage notre vie que la croix. La croix, vous êtes d'accord pour la porter? Seigneur, j'accepte tout ce que tu voudras que je fasse pour ta gloire. La croix, vérité, c'est pas compliqué. La croix, elle sépare les chrétiens en deux catégories. Les vainqueurs et les vaincus. C'est un principe. On en est là. Ils croient pour un temps. Il y a ceux qui vont persévérer. Quand on accepte la croix, Seigneur, j'accepte tout ce que tu veux que je traverse. Tout. Seigneur, je l'accepte. Vraiment. Et la croix, elle sépare. Il y a d'un côté les vainqueurs et d'un côté les vaincus. D'un côté, il y a les chrétiens de l'Odyssée, qui sont allés dans la défaite. De l'autre, il y a les chrétiens de Philadelphie, qui sont ces chrétiens qui gardent la parole. De l'autre, il y a les qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Il y a le blé. Et de l'autre, il y a l'ivré. De l'autre, il y a les vierges folles. De l'autre côté, il y a les vierges sages, etc., etc. Et toute la parole de Dieu, on pourrait le faire, ce serait intéressant, sépare les chrétiens en deux. Il y a les vainqueurs et les vaincus. Quelqu'un qui n'accepte pas une épreuve, il va décrocher. Ou bien les épreuves nous enracinent, on ne s'en rend pas compte sur le moment. C'est après qu'on s'en rend compte, que son nom soit béni. Ou elles vont nous amener à discuter, à murmurer, à contester. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Il y en a qui vont jusqu'à le dire. D'autres, ils ne le disent pas, mais ils le pensent. Seigneur, je pense que tu as dû te tromper. Moi, je l'ai entendu, ça. Je crois que Dieu a dû se tromper. Non, mais franchement, ça ne va pas vous approcher de Dieu, ça. Vous pensez peut-être avoir gagné, entre guillemets. J'ai gagné. Cette épreuve-là, je m'en suis sorti, j'ai rien appris, je me suis éloigné de Dieu. Combien de gens ont quitté l'église et ont dit, voilà, je suis, j'ai gagné. On ne gagne pas quand on s'éloigne de Dieu. On gagne jamais. On gagne quand on apprend. Et mes frères et sœurs, c'est l'un ou l'autre. Mais ne vous imaginez pas que Dieu peut perdre. Hein. Que c'est vous qui allez gagner et que Dieu a perdu. Ça ne tient pas debout, ça. Mais voilà pourquoi des gens ont décroché. Quand le soleil est paru, ils ont décroché. Et c'est dommage parce que toutes sortes de comportements, si vous commencez et vous pouvez être entouré de chrétiens négatifs, oh ben tu sais, c'est pas grave, tu murmures, mais c'est pas grave, tu sais. Moi je crois qu'il peut y avoir un moment où on expose sa souffrance. Est-ce que c'est normal d'exposer sa souffrance? Job dans la souffrance, pourtant c'était un homme, quand Dieu parle à Satan, il dit, t'as vu mon serviteur Job? T'as vu? C'est un homme intègre et droit. Il explique ce que c'est l'intégrité, craignant Dieu et se détournant du mal. Il n'y a pas d'un homme comme lui sur la terre. Vous connaissez l'affaire de Job. Et pourtant, quand vous voyez Job dans les chapitres qui vont suivre, quand il va perdre tout, il va dire, mon âme est dégoûtée de la vie. Ah bon? C'est ça l'intégrité? Mais il ne dit rien contre Dieu. Il est dégoûté. Il est dégoûté, il en a marre. Mais il n'est pas en train de parler contre Dieu. Est-ce que vous faites la différence? C'est une chose de dire, je suis dégoûté, j'en ai assez, j'en peux plus. Et commencer à dire, ouais, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Vous comprenez la différence? Ça ne se situe peut-être pas à grand-chose, mais en vérité, ça exprime la façon dont vous vous approchez de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous discutez avec Dieu, si vous vous débattez avec Dieu, si vous vous battez avec le Seigneur. Mais une chose est certaine, si vous vous plaignez, c'est révélateur de quelque chose de mauvais qui commence. Il y a des gens, ils se plaignent tout le temps. Tout le temps! Ils sont esclaves de leurs émotions, de leurs sentiments. Ils se lèvent le matin, il pleut, ça y est, c'est fini. Il y a du brouillard, c'est fini. La journée, elle est gâchée. C'est des chrétiens. C'est sûr que si vous travaillez dehors sur des toits et qu'il pleut toute la journée, je comprends que ça puisse vous affecter. Mais si vous êtes dans un bureau qui pleut toute la journée, quand même. Oui ou non? Soyons sérieux. Mais il y a des gens qui sont esclaves de leurs sentiments. Il faut accepter l'enseignement. Ce matin, vous écoutez un enseignement, une exhortation, ce que vous voulez, un encouragement. Comment vous le prenez comment hein? Il faut accepter. De toute façon, Dieu nous mettra à l'épreuve. Mais il n'y avait pas beaucoup de terre. Alors, j'ai demandé à mon fils de mettre sur une clé USB quelques photos. Quand il n'y a pas beaucoup de terre, quand il n'y a pas un sol profond, ça veut dire que tout est superficiel. Vous avez vu c'est où qui est écrit? Au verset 5. Elle tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Quand il n'y a pas beaucoup de terre, c'est vite absorbé, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est l'homme qui dépend des circonstances. Ça ne sert à rien. Mais vous avez vu les palmiers dans le désert? Est-ce que vous avez déjà vu des palmiers dans le désert? C'est magnifique. Monsieur, voilà. Vous le voyez bien au fond? Est-ce que vous le voyez bien? Vous éteignez là peut-être pendant quelques secondes. Regardez un peu ce palmier. Vous avez vu? Est-ce qu'il, d'après vous, il a subi le soleil? C'est pas bien clair cette photo, monsieur Puette. Hein? C'est moi qui vous parle. Vous avez vu cette photo? Il est où mon fils Lucas? Bon, à quoi vous pensez quand vous voyez ça? Mettez la deuxième peut-être, photo. Ah oui. Il y a les petits palmiers, il y a les grands palmiers. Ouais, c'est Lucas qui m'a fait ça. Bon, je pensais que ça aurait été un peu mieux. C'est pas vrai. La troisième, pour voir. Lucas ne vient plus manger à la maison. Il est où, Lucas? Je ne veux plus que tu viennes à la maison. Bon, enfin, vous avez une idée de ce que certains arbres croissent dans le désert. Pourtant, il n'y a rien. Vous avez, il n'y a rien à côté. Et l'autre photo, si c'est possible. Ouais. Mais laissez-la là. Stop, c'est bon. Vous avez vu? Vous avez les dates, mettez-moi. C'est vous. Oui, les dates, s'il vous plaît. Voilà. C'est beau? Voilà ce qui se passe. Et je peux vous dire que le jus qui a fait ces dates, il vient de profond. Mes frères et sœurs, j'ai pris ces photos, oui. Mes frères et sœurs, c'est volontaire. Les palmiers, ils grandissent avec le soleil. Et si vous regardez sur la croissance des palmiers, un palmier a des racines aussi longues, profondes, que sa hauteur, même 6 mètres de plus. Hier soir, je regardais un palmier comme ceux qu'on a vus là en photo. Normalement, ceux qui sont grands, si un palmier fait 20 mètres, les racines font 26 mètres de profondeur et puisent jusqu'à 100 litres d'eau minimum par jour pour pouvoir porter des fruits, des dattes. Il y a les palmiers dattiers, il y a plusieurs sortes de dattes. Mais il y a des dattes, vous savez, grosses, juteuses, sucrées, pleines de calories. Et parce qu'un arbre, il ne fait pas des fruits pour lui. Nous ne portons pas des fruits pour nous. Pour qui nous porte un arbre? Pourquoi il porte des fruits? C'est pour qui? Eh bien, c'est pour nourrir les autres. Et c'est là que nous voyons si nous faisons du bien aux autres. Si nous nourrissons les autres. C'est une question quand même qu'on peut chacun se poser. Est-ce que je fais du bien aux autres? Est-ce que j'apporte des dattes sucrées aux autres? Et c'est l'un ou l'autre, de toute façon. Tous, on aura des épreuves. On entendra l'enseignement et Dieu permettra une épreuve à cause de l'enseignement, à cause de cette parole. C'est imparable. Ne dites pas, j'ai tout compris. Il va falloir le réaliser. Un boxeur, il peut apprendre la boxe par un livre. C'est bien. Vous êtes d'accord? Un uppercute. C'est quoi un uppercute, monsieur le professeur? Un uppercute, c'est un coup de poing en dessous du menton qui t'éjecte en arrière. Ah, mais j'ai compris. Non, ce soir, tu comprendras. Vous comprenez? C'est bien, j'ai compris. Un coup de poing sous le menton, paf, tu décolles un peu et tu te retrouves dans les cordes. J'ai compris. Oui, tu as compris. Je sais que tu as compris. Mais à l'entraînement ce soir, je vais t'expliquer ce que c'est. Et je peux vous dire que quand il va voir les constellations d'Orion approcher, il va dire, là, ça y est, je sais ce que c'est, je vais les éviter. Vous comprenez, c'est bien la prédication, c'est bien l'enseignement, c'est bien l'exhortation, c'est bien de s'asseoir le jeudi avec les frères et les sœurs qui veulent approfondir leur connaissance spirituelle. Mais Dieu dit, c'est pas moi, c'est Jésus, il viendra une persécution, une tribulation, ça n'a rien à voir avec les persécutions de la grande tribulation de l'Apocalypse, les épreuves, les difficultés à cause de la parole. Vous allez ou grandir ou vous allez dessécher. Et ces palmiers sont une image extraordinaire de ce que Dieu veut. Dieu veut que dans le désert, eh bien, j'apprenne. Oui, je suis dans le désert en ce moment. Oui, je suis en train de souffrir parce qu'avec ma femme, ça ne va pas. Je ne parle pas pour moi. Mais ça arrive. Ça arrive, c'est dramatique même. Tu vois, Seigneur, je ne sais pas comment m'occuper de mes enfants. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Je ne sais pas comment faire. Est-ce que ça peut arriver? Oui, je ne sais pas comment... Seigneur, je t'en prie, je veux des racines. Le palmier, il descend, ça descend. J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai lu ça sur Internet hier soir, j'ai lu que certains palmiers peuvent avoir des racines de 150 mètres. Je ne sais pas si c'est vrai, il peut te voir. 150 mètres pour puiser de l'eau. Parce qu'en plus, quand on voit le système racinaire des palmiers, c'est un truc de fou à cause du vent. C'est impressionnant. Vous pouvez aller sur Internet, c'est magnifique. Le système racinaire des palmiers. Il y a plusieurs sortes de racines pour quand il fait chaud, quand il fait du vent, l'eau monte plus vite. C'est merveilleux. Et Dieu nous compare à des palmiers qui peuvent justement s'approfondir. Chaque fois, il y a une épreuve, je regarde vers Dieu. Seigneur, je me tiens devant Dieu. Faute de racines. Voilà. Et je termine avec ça. S'il n'y a pas de racines, il n'y aura rien. C'est pour ça qu'il croit pour un temps. Notre vie spirituelle. Vous savez, je vais vous dire. Notre vie spirituelle, elle se résume soit à ce que nous vivons devant les hommes, comme là. Là, nous sommes entre nous. Dès qu'il y a du monde, c'est l'extérieur, c'est l'arbre qu'on voit. Là, c'est l'arbre. Les feuilles, c'est l'arbre, c'est l'extérieur. Dès qu'on voit quelqu'un, dès qu'on est avec un chrétien, ce n'est pas les racines. C'est la partie visible de l'arbre. Et le Seigneur explique qu'il y a une vie cachée. Les racines, par déduction, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Les racines, c'est la vie cachée. Le meilleur, peut-être le meilleur exemple, la meilleure image, c'est quand Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ça, c'est la vie cachée. C'est certainement une des plus belles images de la vie cachée. Mais ça, c'est seul devant Dieu. Et si vous voyez quelqu'un qui chute, un chrétien qui chute, même s'il sert Dieu, même s'il prêche, même si on le voit à courir à droite et à gauche, en pensant qu'il a vraiment du charisme, et ce que vous voudrez, ça ne veut rien dire. Quand quelqu'un chute, c'est la preuve qu'il n'avait plus de communion avec Dieu. Vous pouvez le dire comme vous voudrez, quand quelqu'un chute, il n'y a plus de racines. Ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, ça fait 1 an, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est quand quelqu'un chute, c'est qu'il avait perdu sa communion avec Dieu, il avait perdu ses racines. Des fois on dit oui, il a chuté parce qu'il avait une épreuve peut-être trop forte. Bon, quelqu'un m'a dit un jour, si vous restez fidèle dans les églises, c'est parce que vous n'avez pas eu d'épreuve. Je dis, ah bon? C'est ridicule. Alors on est fidèle, nous, parce qu'on n'a pas eu d'épreuve. C'est vrai ou c'est pas vrai? N'importe quoi. Mais quelqu'un me l'a dit. On n'est pas fidèle parce qu'on n'a pas eu d'épreuve. On est fidèle parce qu'on s'est enraciné dans la grâce de Dieu et on veut s'enraciner, on veut avoir une vie cachée. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et... C'est pas ça, Béatrice. C'est pas tout à fait ça. On va le lire. Parce que c'est une clé, mes frères et sœurs. On croit connaître les textes, on les croit les connaître. Elle a oublié un mot, Béatrice. C'est pas grave, mais c'était le mot le plus important. Regardez, Matthieu chapitre 6. Mais vous savez, vous le croyez que tout est inspiré dans la parole de Dieu? Regardez, qu'est-ce qu'il est dit? Quand tu pries, Matthieu 6, entre dans ta chambre. C'est personnel. Tout ce qui est personnel, c'est la vie cachée. C'est pas parce qu'on prie ensemble que c'est la vie cachée. C'est la vie tout seul avec Dieu, la vie cachée. Tout seul. En vérité, vous savez si vous avez une vie cachée. Si vous aimez, vous retrouvez seul dans la présence de Dieu. Si vous n'aimez pas, vous retrouvez seul dans la présence de Dieu, votre vie, vous n'avez pas de vie cachée. Là, ce n'est pas une vie cachée. Je le répète, c'est quelque chose d'extérieur. Ton Père, qu'est-ce qui est écrit ? Qui voit dans le secret. Quand on prie, Dieu ne fait pas que nous entendre. Bien sûr qu'il nous entend. Il nous voit. Ça veut dire quoi? Il voit les intentions du cœur. Parce que c'est une chose de prier. C'est une chose de prier. Mais le cœur, comment je suis? Pourquoi je suis seul devant Dieu? Comment, dans quel état je suis? Est-ce que je prie parce qu'il faut prier? Est-ce que je prie parce que le pasteur n'arrête pas de nous rabâcher, qu'il faut absolument prier? Alors je prie et je le fais. Mais je le fais, Seigneur, je le fais pour toi. Non.
Dieu entend, bon, ça c'est sûr, c'est évident, mais Dieu y voit. Vous voyez là, moi je prêche, c'est vrai que c'est ce que Dieu me demande, et je le fais avec sérieux, je le fais avec joie, etc., etc., et je suis heureux, tout, mais tout ça c'est l'extérieur. Mais quand je prie, même ma femme elle ne le sait pas, quand je suis seul dans mon bureau et que je prie, que je passe du temps, il n'y a que Dieu qui sait comment je le vis ce moment. Est-ce que je prie pour prier parce qu'il me faut préparer des sermons dont j'ai intérêt à m'appliquer, à passer du temps pour travailler, afin que les sermons soient épatants, etc. Ou est-ce que Dieu voit que ma disposition, c'est une disposition de cœur d'un simple chrétien qui cherche Dieu? Dieu voit. C'est la clé, ça, le palmier, le dattier, le palmier dattier qui porte ses fruits énormes au Maroc. Il y a des, je sais pas comment elles s'appellent, là, ces grosses dattes, la sucrée, c'est ces fameux palmiers là qu'on vient de voir. Mes frères et sœurs, il y a Dieu, il voit, là, il nous voit bien sûr, tout va bien, on est à l'église, on s'est endimanché, on est venu, c'est important. Mais je le répète, c'est le tronc, c'est les feuilles. Quand on est seul devant Dieu, quelle est votre vie cachée? Si vous n'avez pas de vie cachée, vous ne tiendrez pas. Si vous n'avez pas de vie cachée, vous ne vous approfondirez pas. Le soleil, quel qu'il soit, l'épreuve, quelle qu'elle soit, vous l'avez vu, dans ces déserts, il n'y a que des palmiers qui poussent. Mais ils poussent. Et certains portent des fruits en pagaille. Dieu voit, mes frères et sœurs. Je ne sais pas, tout à l'heure, on va prendre la Sainte Cène, mais même là, on est ensemble. Mais il n'y a rien qui remplace cette communion intime avec Dieu. Mon frère, écoute-moi, mon frère, ma sœur, vous les jeunes qui avait eu la grâce de naître dans un foyer chrétien. Parce que c'est une grâce de naître dans un foyer chrétien. Les ados, je ne sais pas vous là sur l'estrade, mais les autres, il y a des ados, oh purée, je suis malheureux, si j'aurais aimé ne pas être dans un foyer chrétien. On l'a entendu ça. J'espère que vous le dites, que vous l'avez dit, je comprends dans le combat. Là. Écoutez-moi les enfants, nos ados que nous aimons, vous êtes nos enfants, on vous aime. Écoutez-moi les ados, ne redites plus jamais ça, plus jamais. Si vous êtes né dans un foyer chrétien, sachez que c'est une grâce. Vous entendez? Vous le croyez là, ceux qui sont sur l'estrade? Croyez-le. C'est une grâce d'être né dans une famille où il y a des chrétiens. Vraiment, croyez-moi, c'est une grâce. Et Dieu, il regarde, là, on est ensemble, tout ça, c'est bien. On en a besoin, on a besoin de communion fraternelle. Mais mes frères et sœurs, mon frère, ma sœur, que fais-tu de ce temps secret où Dieu te voit? Vous savez, Dieu y voit. Si vous passez un quart d'heure, je ne sais pas comment vous faites. C'est secret. Pour que ce soit vraiment secret, il ne faut pas en parler. Si je commence à vous dire, vous savez, moi, mes frères, je passe tant d'heures dans la prière. Est-ce que ça y est, ça ne va plus? Ça ne va plus. Ça se voit. Donc, est-ce que c'est ça que Dieu attend? Non, c'est caché. C'est quelque chose entre vous et Dieu seul. Moi, j'aime prier avec ma femme, tout ça. J'aime prier avec elle. J'ai besoin de prier avec elle. Mais je sais que même là, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas ma vie cachée? Je suis avec elle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce qui se voit. Mais la vie cachée, c'est, Jésus l'a dit. En plus, il dit, c'est un secret. C'est dans le secret. Là, Dieu te voit. Dieu voit, je répète, j'insiste, hein, mais c'est sérieux. Dieu voit, Jésus l'a dit, voici sur qui je porterai mes regards. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui va à l'église tous les dimanches. Non? Vous êtes sûr, Béatrice? Vous êtes sûr? Sur celui qui prêche bien la parole de Dieu. Sur les pasteurs bien endimanchés le dimanche matin, je porterai mes regards sur ces hommes-là. C'est ça qu'il a dit? Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui tremble à ma parole. Oui ou non? Ésaïe 66, verset 2. Je porterai. C'est Dieu qui parle. Je ne sais pas, c'est parce que le regard, bon, le regard de quelqu'un, le regard d'un frère, d'un ancien, on me dira, oh, j'espère qu'il considère que je suis quelqu'un de bien. Quelqu'un, je me dis, monsieur Gauche, j'ai prié. J'espère que vous avez apprécié ma prière. Je dis, mais c'est pas grave, moi, je ne sais pas comment vous avez prié. Bien sûr que j'apprécie. Mais ce qui est important, c'est comment. Vous voyez, parce qu'elle priait pour la première fois, cette personne. Alors elle voulait, mais ce n'était pas méchant. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu voit. Quand tu pries, Dieu te voit. Alors mes frères et sœurs, combien de fois le Seigneur il nous voit en fait, seul avec lui? Je peux nous poser la question, dans la semaine, combien de fois le Seigneur nous retrouve seul avec lui? Et dans quelle disposition? Est-ce que je l'invoque que quand je suis dans la détresse? Parce qu'il y a des psaumes comme ça, qui nous indiquent que quand j'étais dans la détresse, j'ai invoqué le Seigneur, il m'a délivré. Mais est-ce qu'on peut l'invoquer quand tout va bien? Moi, dans ma Bible, ne le dites à personne. Hein? Ne le dites pas. Je vous demande de ne pas le dire à personne. Dans ma Bible, vous savez ce que j'ai écrit en crayon papier? Quand, au sein de la détresse, je t'ai invoqué. Moi, j'ai écrit à côté, au sein de l'abondance aussi. Parce que moi, je ne veux pas invoquer Dieu quand ça va mal. Je veux invoquer Dieu toute ma vie. Quand ça va bien et quand ça va mal. Je ne veux pas l'invoquer que quand j'ai besoin de lui. Je veux, nous voulons nous retrouver avec lui. Et on ne s'en rend pas compte. Mais quand on est seul avec Dieu, nos racines descendent. Et si notre disposition, elle est vraie, elle est honnête, eh bien nos racines descendent. Et le soleil, moi je ne sais pas vous, mais je pense qu'il va frapper de plus en plus. Alors écoutez, Dieu, il faut lui demander qu'il nous aide. Si je dis, voilà Seigneur, écoute, moi je veux faire des progrès. Vous voulez faire des progrès? Qui veut faire des progrès? Allez, levez la main ceux qui veulent faire des progrès. Mon fils Jonathan, t'as pas levé la main. J'ai le doigt à lever. Oui. Est-ce que quelqu'un veut faire vraiment des progrès? Oui. Donc, si nous voulons faire des progrès, soyons honnêtes. Seigneur, je ne fais pas assez de progrès. Soyez honnêtes. On n'est pas là pour dramatiser, pour culpabiliser à outrance, bêtement. On doit être honnête. Vous savez, hier, après avoir préparé cette prédication, je pensais, je termine vraiment parce que cette pensée elle s'est imposée à mon cœur hier soir. Quand j'ai fini de préparer, quand j'aime bien prendre un, deux ou trois chapitres et le lire. Et justement, comme je disais dans l'évangile de Marc, je suis tombé sur ce texte où Jésus est entré dans Jérusalem sur un ânon. Vous rappelez que... Et je pensais, je dis, le Seigneur, il nous aidera si on veut faire des progrès, il va nous aider. Si je fais pas, mes racines ne sont pas assez profondes, eh bien, il va m'aider, il va nous aider, le Seigneur. Si on prend cette prédication au sérieux, on dit, bon, c'est vrai, j'ai pas assez de racines, alors le soleil, ça va chauffer, pas grave, je vais m'enraciner. Et je pensais à Jésus, il a dit aux disciples, vous allez là-bas, vous me cherchez le petit d'une ânesse, vous me l'amenez. Un ânon qui n'avait jamais été monté. Bon, je pensais que c'était pour moi que je lisais ça, puis je pense que c'est pour tous. Un âne, vous connaissez l'expression têtu comme un âne? Vous connaissez? Moi, quand j'étais petit, j'entendais ça tout le temps. T'es comme un âne, t'es têtu comme un âne. Un âne qui n'a jamais été monté, on ne peut pas le monter. Un âne, quand il a peur, je suis de la campagne, je suis un paysan, moi. Un âne, quand il a peur, il est paralysé. Un cheval, quand il a peur, il s'enfuit. Un âne, quand il a peur, il ne bouge pas. Et pourtant, parce que le Seigneur Jésus est monté sur cet âne qui n'avait jamais été monté, jamais été dompté, jamais été dressé, jamais été éduqué, cet âne, il a obéi. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus était sur lui. Alors si Jésus a pu dresser, éduquer un âne, moi je vous donne de l'espoir, le Seigneur... Oui ou non? Mais c'est vrai. Je dis ça avec humour, mais est-ce que ce n'est pas vrai? Franchement, je vous dis ça pour vous encourager. Il l'a fait. C'est impossible. Allez sur Internet et regardez dressage d'un âne. Vous allez rire. Je vous assure, vous allez rire. Vous allez rire. C'est pas évident, croyez-moi. Mais ça, j'ai compris. Mais quand le Seigneur s'assoit avec nous, on va pouvoir obéir. Seigneur, il faut que tu restes avec moi. On va fermer les yeux quelques instants. Je vais demander à Monsieur de Dieu de choisir des frères, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, franchement, je lisais cette histoire. Je pensais à cet âne qui n'a jamais, jamais été monté. Mais parce que Jésus était là. Cet âne, il a avancé. Quelle joie d'avancer avec le Seigneur. Vous n'avez pas envie de continuer la course avec le Seigneur? Marcher avec lui, porter le Seigneur. Quel bonheur. Les palmiers, ils croissent dans le désert. Afin que les gens reconnaissent qu'il est Dieu. Est-ce que vous avez envie que quand les gens vous voient, même s'ils n'acceptent pas, même s'ils vous critiquent, il voit que vous êtes un vrai disciple. Vous n'avez pas envie? Peut-être que vous travaillez avec 10 personnes, les 10 sont méchantes, mais ils savent que vous êtes un chrétien. Mais c'est ça le témoignage. Alors mes frères et sœurs, et demandons-lui de l'aide. Il nous aidera. Ce n'est pas possible qu'il ne nous aide pas. Si vous ne vous enracinez pas, c'est parce que vous ne voulez pas. Si vous vous retrouvez seul avec Dieu, écoutez bien, je m'adresse bien sûr à ceux qui ont une vie de communion avec le Seigneur, c'est évident, mais à ceux qui ont peut-être négligé cette communion. Parce que le diable, il vous empêchera pas de servir Dieu, mais il vous empêchera cette communion. Alors réponds au Seigneur, réponds-lui honnêtement, dans ton cœur bien sûr. Seigneur, je ne suis pas satisfait de ma communion, je ne suis pas satisfait de mes progrès. Je sais qu'il y a l'enseignement que tu vas provoquer à cause de la parole, une persécution, une tribulation, une épreuve, comme vous voulez. Seigneur, je l'accepte. Moi, je vais m'enraciner. Le soleil ne va pas me dessécher, le soleil, il va me faire grandir. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voudrions ressembler à ces apôtres qui se sont rapprochés de toi après que tu aies parlé. Nous voulons ressembler à ces gens qui voulaient des explications. C'est un peu pour ça qu'on était ici ce matin, Seigneur, pour avoir quelques explications par rapport à ta parole. Mais Seigneur, si nous acceptons ces explications, nous voulons accepter également tout l'enseignement pratique qui suivra. S'il te plaît, Seigneur. Nous te le demandons afin que nous ressemblions à ces palmiers qui auront la joie sur la terre de porter beaucoup de fruits pour rafraîchir ceux qui ont faim et soif. Que ton nom soit béni, Seigneur. Levez-vous, mes frères et sœurs, on va prendre le pain et le vin. Vous qui êtes baptisés par immersion, vous qui avez pris cet engagement de passer par la croix, de mourir à vous-même, vous qui avez ce matin peut-être prié avant de venir, Seigneur, parle-nous, parle-moi. Eh bien, peut-être que Dieu vous a parlé. Eh bien, maintenant, dites, Seigneur, maintenant, j'ai compris, j'accepte, mais j'accepterai les tribulations à cause de la parole, ce soir, demain. Mais vous savez, on peut apprendre beaucoup. On peut apprendre beaucoup. Dieu peut nous diriger près des eaux paisibles. Dieu peut nous conduire dans les verts pâturages. Il n'est pas obligé d'utiliser la houlette et le bâton. Il n'est pas obligé. Alors, apprenons le mieux possible, mes frères et sœurs. Que son nom soit béni. Restons dans le recueillement. Si vous élevez la voix, faites-le courtement, s'il vous plaît. Que tout se fasse. Vous savez combien c'est important pour moi, et pour nous, pour le Saint-Esprit, que tout se fasse avec ordre et bienséance.